France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série d'été des grands accords internationaux sur France Culture. C'était le 5 décembre 1994. 3 ans après son indépendance, l'Ukraine accepte, sous la pression, en signant le mémorandum de Budapest, de se séparer des armes nucléaires dont elle a hérité après la décomposition de l'URSS. En échange, les pays garants, États-Unis, Russie et Royaume-Uni, plus tard rejoints par la France et la Chine, s'engageaient à respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières. 20 ans plus tard, en 2014, la Russie annexe la Crimée et lance la guerre dans le Donbass, sans véritable réaction des pays signataires de Budapest. En 2022, elle envahit l'Ukraine. Le mémorandum de Budapest n'était qu'un tigre de papier. Des phrases douces et belles, mais pas de réelle garantie de sécurité. Il a été allègrement violé par la Russie et n'a provoqué, du côté des autres garants, au début du moins, que des protestations verbales. Depuis, les Ukrainiens, meurtris par 3 ans de guerre, ont amèrement regretté d'avoir renoncé à leur arsenal qui les aurait protégés des élans impérialistes russes. Depuis février 2022, des voix suggèrent même de refaire de l'Ukraine une puissance nucléaire. La désillusion de Budapest explique pourquoi Volodymyr Zelensky insiste si fort aujourd'hui pour que la paix future s'accompagne de véritables garanties de sécurité. À défaut de pouvoir obtenir leur entrée dans l'OTAN, refusée par Washington, les Ukrainiens réclament de solides assurances militaires des États-Unis et de l'Europe afin que la Russie ne puisse plus les attaquer une nouvelle fois. L'Ukraine aurait-elle pu ou aurait-elle dû refuser de signer le mémorandum de Budapest? Quel type de conséquences l'exemple de Budapest peut-il avoir sur le monde actuel et sur la prolifération nucléaire? C'est de tout cela et de bien d'autres choses dont nous allons discuter aujourd'hui pendant une heure avec les invités de France Culture. J'accueille d'abord Marie Dumoulin. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le programme Europe élargie du Conseil européen pour les relations internationales, l'ECFR. Diplomate de carrière, vous êtes spécialiste de la Russie et de l'ancien espace soviétique. Je salue aussi Pierre Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplomate et vous avez été ambassadeur de France à Moscou de 2020 à 2024. Vous avez aussi été ambassadeur en Pologne et en République tchèque. Vous avez été enfin directeur de l'Union européenne au ministère des Affaires étrangères et directeur du Centre d'analyse et de prévision, le CAP, toujours au Quai d'Orsay. Merci à tous les deux de vous prêter à cet exercice passionnant qui consiste à éclairer le présent à partir des accords du passé. Alors, rappelons d'abord le contexte de l'époque. Pierre Lévy, c'est la fin de la guerre froide, l'effondrement de l'Union soviétique, l'indépendance de nouveaux États, bref, la promesse d'un monde nouveau et peut-être d'un monde meilleur. Où en est-on à cette époque-là?
Alors effectivement, c'est une période charnière avec la fin de la guerre froide et une question qui se pose tout de suite, qui est celle de la succession de l'Union soviétique. C'est un point qui est très important. Différents aspects, un aspect politique et un aspect juridique. En d'autres termes, quel est l'état successeur de l'Union soviétique? C'est la Russie, c'est le choix qui est fait. Et ce qui suppose aussi, bien évidemment, un accord entre les différents États. Donc il y a des négociations qui se déroulent à cette époque entre les différents États. Il y a la création de la CEI, la Communauté des États indépendants. Et puis enfin, on est dans une période très très active. Et il faut bien voir que, pour employer une image parlante, c'est comme en quelque sorte dans un ménage, quand on se sépare, il faut trouver un accord sur l'actif et le passif. L'actif, par exemple, tout le réseau diplomatique de l'Union soviétique, comment est-ce qu'il se partageait. Et puis également le passif, par exemple la dette. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais été à la direction économique du Quai d'Orsay et on avait travaillé sur la dette de l'Union soviétique, comment la Russie pouvait la reprendre. Donc on est dans une période qui est extrêmement intense, extrêmement prometteuse aussi. Comme vous l'avez dit, c'est l'époque de la signature en juillet 91 de START 1.
L'accord de désarmement.
L'accord de désarmement entre Bush et Gorbatchev. Et puis, en décembre 91, il y a un sommet à Alma-Ata, enfin Almaty de nos jours, par lequel les trois États sur le sol duquel il y a des armes nucléaires, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine, renvoient à la centralisation des armes nucléaires à Moscou.
Marie Dumoulin, est-ce que vous avez la même analyse? D'où vient cet accord de ce mémorandum de Budapest? En fait, quelle est sa genèse?
Alors effectivement, je crois que Pierre Lévy a très bien décrit le contexte dans lequel on se trouvait à l'époque. Ce contexte, il crée des inquiétudes en dehors de l'ex-Union soviétique, et notamment des inquiétudes sur le risque de prolifération nucléaire. Il y a un régime international qui encadre la possession d'armes nucléaires par les États, le traité de non-prolifération, et ces nouveaux États indépendants qui émergent des ruines de l'Union soviétique ne sont pas tous partis à ce traité, puisque jusqu'à présent, il n'existait pas. Donc il y a un premier enjeu qui est de faire en sorte que l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan, puisque ce sont ces trois pays qui, en plus de la Russie, ont des armes nucléaires déployées sur leur sol. Donc il faut faire en sorte que ces trois pays adhèrent au traité de non-prolifération. Ça se fait selon des calendriers différents pour ces trois pays. L'Ukraine, en particulier, demande en échange de cette adhésion des garanties pour sa sécurité. Mais il faut bien voir que pour les négociateurs américains et britanniques notamment, le principal enjeu à ce moment-là, ça n'est pas la sécurité et la souveraineté de ces trois États, c'est vraiment la question de la non-prolifération nucléaire et faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un État qui ait la main sur les armes nucléaires héritées de la période soviétique. Et donc toute la négociation sur ces mémorandums de Budapest, puisqu'il y en a trois, un avec l'Ukraine, un avec la Biélorussie et un avec le Kazakhstan, va viser à faire en sorte qu'ils acceptent de renoncer aux armes nucléaires en échange d'engagements des pays signataires, donc de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni, de respecter leur souveraineté, leur indépendance, leur intégrité territoriale et de ne pas recourir à la force à leur encontre.
Alors on va s'arrêter juste un tout petit moment sur le cas précis de l'Ukraine si on la compare à la Biélorussie et au Kazakhstan. Pierre Lévy, en fait l'Ukraine c'était une grosse puissance nucléaire, on disait que c'était la troisième au niveau mondial avec un arsenal considérable, 1900 ogives stratégiques et 2500 armes tactiques. Pourquoi en fait?
Il y avait effectivement une grande quantité d'armes nucléaires et d'armes tactiques, de capacités balistiques, de bombardiers stratégiques. Les chiffres diffèrent, hein, mais selon certaines études, il y aurait à peu près 10% des armes de l'arsenal soviétique qui était en Ukraine, simplement parce qu'il y avait un pays qui était unique, une fédération socialiste soviétique. Et donc les armes étaient là. Mais ce qui ne veut pas dire que l'Ukraine pouvait être une puissance nucléaire. Je crois que c'est plus qu'une nuance. C'est-à-dire qu'il y a des armes qui sont là, mais il faut ensuite...
Et potentiellement, quoi.
Potentiellement. Mais ensuite, il y a des systèmes de contrôle, il y a des systèmes de commande. On sait assez peu de choses, finalement, sur la manière dont les armes pouvaient être assemblées. Parce que je rappelle quand même les principes de base. Il y a la matière, il y a les vecteurs, les missiles, et puis il y a les ogives. Donc comment est-ce que tout ça se fait? L'Ukraine à l'époque était une puissance nucléaire, c'est pas totalement exact. Je rajouterais aussi quand même un point très important, parce qu'il faut se souvenir de cette période extrêmement intense dans la décennie 90, dans laquelle il y avait des pays qui éclataient, il y avait une profusion de nouveaux pays souverains, et on l'a vu d'ailleurs dans les Balkans avec les difficultés qu'il y a eu par ailleurs. C'était aussi un levier pour les Américains, pour les Européens, pour reconnaître la souveraineté de l'Ukraine, hein, parce qu'on avait certaines exigences à juste titre, et c'était aussi un levier pour les Ukrainiens pour obtenir un soutien financier très important, et c'était aussi un levier pour les Russes. Vous vous souvenez qu'il y a eu des programmes de retrait des forces russes, par exemple d'Allemagne de l'Est, qui ont été financés par l'Occident. Il y a eu tout un programme de lutte contre la prolifération à l'époque. Donc il faut bien voir qu'on était dans une négociation très très importante. Et d'ailleurs à l'époque, sauf erreur de ma part, la majorité de la population ukrainienne était favorable à se débarrasser des armes nucléaires, considérant que c'était une garantie d'une plus grande sécurité pour l'Ukraine.
On va continuer sur ce sujet, Marie Dumoulin, mais avant, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse historique. Comment ça marchait du temps de l'URSS? En fait, chaque république avait une spécialité industrielle ou militaire. C'est pour ça qu'on explique que l'industrie nucléaire militaire était en Ukraine et d'autres républiques avaient d'autres pans de l'industrie. Comment ça marchait?
C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut bien voir que l'Union soviétique était une fédération, mais un État qui était complètement intégré, qui notamment sur le plan économique était intégré, donc avec des chaînes industrielles qui s'étendaient aux quatre coins de l'Union soviétique. Il y avait effectivement des domaines de spécialité dans certaines républiques. L'Ukraine était un pays très agricole, ça l'est encore aujourd'hui, mais c'était aussi l'un des centres industriels de l'URSS, et notamment en matière d'industrie militaire, avec toute une partie du complexe militaro-industriel soviétique qui était implantée en Ukraine, mais qui était aussi intégrée à des chaînes de valeur qui allaient au-delà de l'Ukraine. Il y avait des entreprises de production, notamment aéronautique, on pense à Antonov, on pense à la fabrication de moteurs pour l'industrie aéronautique qui était très présente en Ukraine, mais qui alimentait des chaînes de valeur qui étaient réparties au-delà des frontières de la République socialiste soviétique ukrainienne. Si on parle maintenant spécifiquement du volet nucléaire, je pense que le fait qu'une grande partie de l'arsenal nucléaire soviétique ait été déployé en Ukraine et en Biélorussie est liée tout simplement à la position géographique de ces pays, qui étaient les pays du flanc oriental de l'Union soviétique, et donc en première ligne face à l'adversaire principal qui était l'OTAN. Donc il y avait, au-delà de l'Ukraine et de la Biélorussie, il y avait les pays du pacte de Varsovie, mais qui n'avaient pas évidemment le même rapport au pouvoir central soviétique que l'Ukraine et la Biélorussie. Encore une fois, l'Ukraine et la Biélorussie étaient des éléments d'un pays unifié qui était l'URSS, avec un centre de commandement qui était à Moscou.
Pierre Lévy, à l'époque, est-ce que l'Ukraine avait le choix? On l'a un tout petit peu évoqué dans la question précédente. Quelle a été la nature des pressions qui ont été exercées sur elle? Aurait-elle pu résister?
Je crois que les pressions étaient bien évidemment fortes, mais
notamment des Américains.
Les pressions des Américains.
Bill Clinton à l'époque.
Des Américains, pressions russes aussi à l'époque. Mais surtout, je crois aussi que l'Ukraine n'avait pas les moyens de faire autrement.
Parce que, moyens financiers ou les moyens politiques?
Les moyens financiers. Parce que, pour revenir à des considérations un peu techniques et très matérielles, une chose est d'avoir des armes sur son sol, et comme vous l'avez dit, il y avait une grande partie de l'arsenal soviétique qui était là. Mais ensuite, il faut construire les infrastructures, il faut avoir des programmes de maintenance, avoir des programmes de sécurité, tout le logiciel de ciblage, par exemple, ça s'acquiert. Et alors, il y avait des chiffres qui circulaient à l'époque selon lesquels tout ça coûterait entre 60 et 100 milliards de dollars. Je ne sais pas quelle crédibilité on peut leur accorder, mais en tous les cas, ce sont des chiffres qui ont été cités dans des études. Donc, en fait, les Ukrainiens n'avaient pas les moyens de continuer à supposer que les conditions politiques aient été réunies.
Marie Dumoulin, les pressions, elles venaient des États-Unis et aussi d'autres pays de la communauté internationale ou que des États-Unis?
Ça a été en grande partie les États-Unis qui ont été leaders sur cette négociation du fait de leur rôle en tant que puissance nucléaire. Je voulais juste revenir sur ce que Pierre Lévy vient de dire, parce que je crois que c'est très important de souligner qu'il y avait effectivement un coût financier que l'Ukraine, dans le contexte de l'effondrement de l'Union soviétique et donc de l'effondrement de tout ce système industriel et de ces chaînes de valeur que j'ai évoquées un peu plus tôt, ce coût financier, l'Ukraine ne pouvait pas l'assumer. Mais je crois aussi que c'est important de dire que, encore une fois, les armes étaient déployées sur son sol, mais ça ne veut pas dire que l'Ukraine avait la main sur le bouton. Le bouton, il se trouvait à Moscou. Et le fait de renoncer à cet arsenal nucléaire, quelque part, ça a été l'une des conditions de la souveraineté de l'Ukraine. Si ces armes étaient restées déployées sur le sol ukrainien, ça aurait signifié que Moscou aurait continué à avoir un rôle prépondérant dans la sécurité de l'Ukraine et que donc la souveraineté de l'Ukraine telle qu'on l'a connue depuis n'aurait pas pu s'exercer dans les mêmes conditions. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la Biélorussie qui a accepté que la Russie déploie des armes nucléaires sur son sol. En réalité, au-delà de ce que ça signifie pour la sécurité européenne, il y a des conséquences très immédiates pour la souveraineté de la Biélorussie, qui n'est évidemment plus la même que lorsqu'elle pouvait refuser un droit de regard à Moscou sur les décisions qui concernaient sa propre souveraineté et sa propre sécurité.
C'est très intéressant parce que ça permet de relire ce que disent les dirigeants ukrainiens aujourd'hui quand ils disent « si on n'avait pas rendu notre arsenal nucléaire, on n'aurait jamais été attaqué ». Mais en fait, ils auraient peut-être jamais été indépendants, si on poursuit votre logique.
Ça aurait supposé, pour qu'ils soient indépendants, qu'ils puissent acquérir le contrôle réel sur ces armes nucléaires qu'ils n'avaient pas en 1991. Et ça, c'était encore une fois un investissement financier, un investissement politique, avec en plus une relation avec les pays occidentaux qui n'aurait pas du tout été la même si l'Ukraine avait refusé de s'engager dans ce processus de non-prolifération. On peut supposer que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'ensemble des pays occidentaux auraient été nettement moins en soutien de la souveraineté ukrainienne qu'ils ne l'ont été après la signature du mémorandum de Budapest.
Il y avait une demande expresse des Américains, enfin de l'Occident, d'adhésion de l'Ukraine et des deux autres pays au TNP en tant que puissance non dotée.
Donc le traité de non-prolifération.
Voilà, et c'est ce qui s'est passé.
D'accord, mais est-ce que les Ukrainiens n'auraient pas pu couper la poire en deux ? Parce que, bon, les armes nucléaires stratégiques, le bouton était à Moscou, mais ils avaient des armes nucléaires tactiques aussi. Et là, le bouton, il était à Kiev, non ? Il n'était pas à Moscou. Est-ce qu'ils auraient pu garder des armes tactiques ?
Non. Enfin, je crois que la contrainte est exactement la même. Hein. En termes d'opérationnalité, il n'y a pas une distinction à faire entre les deux types d'armes.
Alors, on va écouter un son, on va écouter une archivina de France 2 qui date du 14 janvier 1994. Un sommet russo-américain à Moscou, c'était avant la signature du mémorandum. Et on voit déjà à l'époque que l'ambition de la Russie est d'être la seule héritière de la force nucléaire et que les tensions sont vives entre Moscou et Kiev. À l'époque, on disait Kiev.
À l'étranger, un pas important pour la sécurité en Europe a été franchi, commente la France. En effet, l'Ukraine, troisième puissance nucléaire mondiale, renonce à son arsenal en contrepartie du soutien financier. Mais cet accord signé aujourd'hui reste fragile. Le président ukrainien est accusé de trahison. Et aujourd'hui, à Kiev, le retour du grand frère russe, c'est une peur de plus en plus pesante. Pascal Verdeau.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour supprimer le dernier problème découlant de la guerre froide. La petite phrase de Boris Yeltsin lors de la signature de cet accord ce matin illustre bien la politique russe. L'ex-Union soviétique dans le domaine nucléaire, quant aux voisins ukrainiens, il fait problème.
Marie Dumoulin, quelle était la stratégie russe à l'époque ? Est-ce que les Russes voulaient déjà une Ukraine désarmée ? Je ne parle pas seulement de l'arsenal nucléaire, mais pour la maintenir dans la sphère d'influence ? Cette Ukraine qui prenait tout juste son envol ?
Alors, je pense que la discussion ne se posait pas du tout dans les mêmes termes à l'époque que ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait des mouvements nationalistes dans l'ensemble des pays de l'espace post-soviétique, y compris en Russie. Et il faut quand même rappeler que la fin de l'Union soviétique a été initiée par trois pays qui étaient la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Donc la Russie a participé à ce processus et à l'initiative de ce processus avec Boris Yeltsin. Je ne pense pas que les dirigeants russes de l'époque pouvaient imaginer que l'Ukraine soit un jour ailleurs que dans une sphère d'influence russe. Et d'ailleurs, je crains fort que les dirigeants russes actuels n'aient toujours pas compris que l'Ukraine pouvait être ailleurs que dans une sphère d'influence russe. Mais ça, c'est un peu une autre discussion. On voit émerger ces débats sur la nécessité pour la Russie de réaffirmer son influence dans les pays de l'espace post-soviétique et notamment en Ukraine et en Biélorussie, plutôt vers le milieu des années 90, avec notamment quelqu'un comme Solzhenitsyn qui a beaucoup écrit sur le sujet et dans des termes qui sont assez semblables à ce qu'on peut entendre aujourd'hui des dirigeants russes. Mais je crois pas qu'au début des années 90, le débat se posait vraiment dans les mêmes termes. D'une part parce que l'imagination n'allait pas aussi loin, d'autre part parce que je pense que vu de Moscou, il y avait vraiment cette notion d'une fraternité russo-ukraino-biélorusse et d'un statut quelque part différent de ces trois pays par rapport au reste des pays de l'espace post-soviétique.
Vous avez la même analyse, Pierre Lévy ?
C'est-à-dire qu'il y a un élément qui me semble-t-il est très intéressant à rappeler, c'est qu'au moment de la ratification de cet accord, de l'adhésion de l'Ukraine au TNP en tant que puissance qu'État non doté, la Rada, c'est-à-dire le Parlement ukrainien, a accepté de voter en précisant toutefois que toute menace contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine pourrait la conduire à réexaminer son engagement de dénucléarisation. Ça veut dire qu'à l'époque déjà, il y avait quand même une très grande méfiance. Il y a des contentieux qui sont anciens, qui sont liés à l'histoire. Il y a la question très sensible de la Crimée et de la base navale qui existait déjà.
Sébastopol.
De Sébastopol, qui existait déjà.
Pour rappeler, donc c'est là que était basée la flotte russe de la mer Noire.
Voilà, et il y avait un accord aussi qui était un accord de bail, en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment très très intéressant de voir comment cette méfiance affleurait déjà à l'époque.
Alors, Marie Dumoulin, Il y avait quoi dans ce mémorandum de Budapest? Là, je parle de sa déclinaison ukrainienne, bien sûr, parce que, en fait, ça fait depuis 3 ans, on dit, les garanties de sécurité n'ont pas été respectées. C'est beaucoup plus compliqué que ça, non?
Alors, le mémorandum de Budapest, il contient une liste d'engagements des États garants, donc la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni, vis-à-vis de l'Ukraine, mais ce sont des engagements négatifs, c'est-à-dire que ces pays s'engagent à ne pas faire certaines choses vis-à-vis de l'Ukraine, ne pas remettre en cause sa souveraineté et son indépendance et ses frontières, ne pas menacer de recourir à la force, ne pas exercer de pression économique sur l'Ukraine. Et dans le cas d'une attaque nucléaire sur l'Ukraine, il s'engage aussi à recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas d'engagement positif, c'est-à-dire d'engagement à agir, autre que cet engagement de consulter le Conseil de sécurité, si l'intégrité territoriale de l'Ukraine venait à être remise en cause. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'une part, les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent dire qu'ils n'ont pas violé leurs engagements, puisqu'ils n'ont pas menacé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le seul État qui l'a fait et qui a violé ses engagements, c'est la Russie. Et les partenaires occidentaux de l'Ukraine ont apporté une assistance à l'Ukraine. Et en particulier, les États-Unis et le Royaume-Uni l'ont fait après 2014 et avant 2022, donc plutôt que d'autres de ses partenaires. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, l'Ukraine est aussi insistante à obtenir des garanties positive pour sa sécurité, donc des engagements, si possible juridiquement contraignants, de ses partenaires à s'engager aux côtés de l'Ukraine dans l'hypothèse où l'Ukraine serait à nouveau agressée.
C'était un mirage finalement ce mémorandum de Budapest, Pierre Lévy.
Je pense qu'à l'époque, l'Ukraine n'avait pas le choix, considérait que c'était quand même le bon choix pour sa sécurité. Mais à l'époque déjà aussi, il y avait des interrogations, y compris dans le camp occidental, sur la portée de ce mémorandum. Vous remarquez d'ailleurs, c'est un mémorandum, ce n'est pas un traité. Voilà. Donc on était bien conscient de la difficulté à l'époque. Et alors, comme Marie Dumoulin l'a rappelé, clairement, il y a une violation par la Russie de ses engagements. Mais ce qui est aussi très intéressant quand on remet les choses en perspective et quand on redéroule le fil de ce qui s'est passé, il y a eu une réponse de Vladimir Poutine à une question de Reuters en mars 2014, dont on parle assez peu, et je crois que c'est vraiment très très intéressant, dans lequel on lui disait « Mais regardez, vous avez violé vos engagements au titre du mémorandum de Budapest. » Et il a indiqué qu'il n'était pas lié par des accords internationaux avec un pays qui vient d'avoir une révolution interne. Donc c'est-à-dire, dans l'approche russe, il y avait en face de lui un nouvel État. Vous voyez, c'est très très intéressant. Et par la suite, on a bien vu la cohérence de la position, puisque pour les Russes, il y a une junte au pouvoir à Kiev, qui est arrivé à créer un nouveau régime avec l'aide des Occidentaux à la suite d'un coup d'État. Donc tout ça est très construit quand même dans la logique russe.
À l'époque, Marie Dumoulin, qui prend conscience de la faiblesse de ces garanties de sécurité? Tout le monde?
À quelle époque? En 2014 ou en 1991?
En 1991. En 1994.
Je pense que les Ukrainiens sont ceux qui en sont le plus conscients à l'époque, mais qui, encore une fois, n'ont pas vraiment d'autres options et ont sans doute aussi d'autres priorités. À l'époque, il y a effectivement une certaine inquiétude sur les ambitions que pourrait avoir la Russie, notamment concernant la Crimée, mais il n'y a pas non plus de perception, en tout cas dans l'opinion ukrainienne, d'une menace russe qui pourrait prendre la forme qu'elle a prise 20 ans plus tard. Du côté occidental, je crois que la question de la sécurité et de la souveraineté de l'Ukraine n'est vraiment pas le sujet de cette négociation. Encore une fois, pour les États-Unis et pour le Royaume-Uni, le sujet de la négociation, c'est la non-prolifération nucléaire. Et je pense pas qu'il y ait eu, ni à Washington, ni à Londres, l'idée que la Russie pourrait un jour envahir l'Ukraine de la manière dont elle l'a fait quelques années plus tard. Ne serait-ce que parce qu'il y avait sans doute aussi la perception que, de toute façon, étant donné ce qu'était l'espace économique représenté par l'ex-URSS, étant donné ce qu'étaient les relations humaines, culturelles, etc., entre les deux pays, la Russie, quelque part, n'avait pas besoin de recourir à la force pour préserver son influence en Ukraine.
Et aussi parce qu'on est à l'époque de Boris Eltsine et qu'il était partie prenante, en fait, de ces indépendances.
Oui, et on est dans une phase des relations entre la Russie et les pays occidentaux qui est sans précédent historique et qui n'a pas duré très longtemps non plus. Mais c'est vraiment la phase d'espoir d'un monde nouveau, comme vous le disiez dans l'introduction. Et donc, on n'est pas dans l'idée qu'on va soupçonner Yeltsin de vouloir agresser. Par ailleurs, il faut voir aussi que la Russie, à ce moment-là, est enlisée dans un conflit en Tchétchénie, où elle ne sort quand même pas particulièrement grandie. Et l'image de sa puissance militaire est quand même considérablement amoindrie par ses performances en Tchétchénie.
D'ailleurs, la date d'intervention de la Russie en Tchétchénie et la date de signature du mémorandum de Budapest sont concomitants. Hein. C'est le même mois. Tchétchénie, c'était 11 décembre 1994. Mais on va écouter ce qu'en dit Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Alors, deux sons, un du 4 mars 2022 et puis un du 6 décembre 2024. Il est assez amer, le président ukrainien.
Tout ce que l'OTAN a réussi à faire jusqu'à présent, c'est de transporter 50 tonnes de carburant diesel pour l'Ukraine par le biais de son système d'approvisionnement. Probablement pour que nous puissions mieux brûler le mémorandum de Budapest. Mais il brûle déjà, pour nous, sous le feu des troupes russes. Le 5 décembre marque les 30 ans du mémorandum de Budapest. 10 ans de guerre. Pas un seul jour, ce document n'a fonctionné. Et à cause de cela, tout le monde saura désormais qu'une simple signature par n'importe quel État ou n'importe quelle assurance ou promesse ne suffit pas pour assurer la sécurité. Ce qu'il faut, ce sont des garanties effectives, de véritables alliances et une base de sécurité réaliste à l'intérieur du pays. Des armes qui permettent de défendre et de dissuader l'ennemi, et une unité qui aide à supporter même les moments les plus difficiles.
Il a dit aussi, Volodymyr Zelensky, le monde entier saura désormais qu'une simple signature de n'importe quel État ou des assurances ou des promesses ne suffisent pas à garantir la sécurité. Le constat est terrible, Pierre Lévy. Quelle leçon Volodymyr Zelensky est-il en train d'en tirer aujourd'hui ?
Non, le constat est terrible d'une manière générale parce que la Russie est un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Donc à ce titre, a un certain nombre de responsabilités, notamment au regard de la préservation et de la mise en œuvre du TNP. Et je vous ouvre une parenthèse, mais on y reviendra peut-être. Mais aujourd'hui, la proximité de la Russie avec la Corée du Nord et l'Iran, des États qui ont des ambitions nucléaires, à mon avis, met gravement en péril l'avenir du TNP. Mais c'est aussi une question qui a une portée opérationnelle majeure et en quelque sorte tragique, qui est de savoir quelle est la valeur que l'on peut aujourd'hui accorder à la signature de la Russie dans un moment où il y a en quelque sorte une accélération des discussions. On parle d'ailleurs dans une grande confusion d'un accord de cessez-le-feu, d'un traité de paix, je ne sais quoi d'autre. Mais donc la Russie a derrière elle un long track record, une longue pratique, en particulier avec les accords de Minsk.
Accord de Minsk 2014 qui devait régler la question du Donbass, voilà. Faire revenir la paix dans le Donbass.
Et donc aujourd'hui, cette rupture en quelque sorte de l'engagement russe de mettre en œuvre le mémorandum de Budapest, à l'exception d'un seul point quand même qu'il faut rappeler, ils n'ont pas utilisé l'arme nucléaire contre l'Ukraine, heureusement. Mais tout ça jette une ombre sur la valeur que l'on peut accorder à la parole du Kremlin.
Marie Dumoulin, sur ces questions et sur les propos de Zelensky.
Alors, ce qui est intéressant dans le propos de Zelensky qu'on a entendu, c'est qu'il ne singularise pas la Russie. Et qu'en réalité, quand il dit que la valeur d'un document, d'un accord signé est nulle, je pense qu'il a aussi à l'esprit les autres pays garants. Parce que, vu l'Ukraine...
Il dit n'importe quel État.
N'importe quel État, exactement. Et donc, pour l'Ukraine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont aussi trahi leurs engagements lorsqu'ils n'ont pas réagi à l'annexion de la Crimée dans un premier temps, à la déstabilisation du Donbass, et ensuite, quand ils ont réagi de la manière dont ils ont réagi après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Le premier extrait qu'on avait entendu, où Zelensky critique l'OTAN pour n'avoir fait que livrer du carburant, est aussi intéressant parce que, quelque part, il est en contradiction avec un des objectifs affirmés par l'Ukraine, qui est l'adhésion à l'OTAN, qui est vu par l'Ukraine comme la seule garantie de sécurité valable parce que susceptible de dissuader la Russie d'agresser l'Ukraine, avec à l'esprit évidemment l'exemple des pays baltes qui ont des relations pour le moins compliquées avec la Russie, mais qui, du fait de leur appartenance à l'OTAN, sont quelque part protégés d'une agression russe.
Jusque-là.
La question qui se pose, et qui je pense est en filigrane dans la citation de Zelensky concernant la valeur des accords, c'est aussi la question de la valeur des alliances. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord n'est pas une garantie de sécurité, c'est la première chose à dire, c'est une clause de solidarité entre alliés. C'est un engagement qui est politique et qui n'a aucune automaticité dans l'hypothèse où il y aurait une agression d'un des alliés. Les autres alliés se réservent le droit de réagir ou ne pas réagir. Et donc, l'article 5 de l'OTAN ne serait pas forcément plus efficace pour protéger l'un des alliés que ne l'ont été les dispositions du mémorandum de Budapest. Ce qui fait la valeur dissuasive de l'article 5, c'est la présence des États-Unis et c'est l'idée que les États-Unis ont un intérêt à protéger leurs alliés parce qu'il y va de leur statut international quelque part. Or aujourd'hui, avec l'administration américaine qui est en fonction depuis le début de l'année, même cette idée peut être sujette à interrogation.
Si on va au bout de votre raisonnement, Marie Dumoulin, on se dit que la seule garantie de sécurité solide et fiable pour les Ukrainiens, c'est d'avoir eux-mêmes la bombe nucléaire.
C'est un raisonnement qui est tenu par beaucoup d'Ukrainiens et qui n'est pas tenu que par des Ukrainiens. C'est en réalité, je pense, la principale leçon qu'un certain nombre d'États ont tirée de l'annexion de la Crimée en 2014 et a fortiori de ce qui se passe depuis février 2022, c'est que la meilleure assurance vie pour un État, et a fortiori un État dont le voisin est une puissance nucléaire, c'est le fait de disposer de l'arme nucléaire. Mais c'était déjà l'idée qu'avaient un certain nombre d'acteurs assez problématiques du système international. Pierre Lévy a cité la Corée du Nord et l'Iran. Ils avaient déjà en tête que, après ce qu'on avait vu par exemple en Irak ou en Libye, où des puissances nucléaires étaient intervenues militairement face à des puissances non nucléaires,
et après avoir accepté de renoncer à leur programme nucléaire.
Et après avoir accepté de renoncer à leur propre programme d'armes de destruction massive et pas uniquement d'armes nucléaires. Donc la leçon qui avait été tirée par des acteurs comme l'Iran et la Corée du Nord, c'était que la meilleure assurance vie, c'est le fait de disposer de l'arme nucléaire. Depuis février 2022, cette idée, elle est présente très au-delà de ces acteurs problématiques et on commence à l'entendre en Ukraine mais aussi dans des pays comme la Pologne qui commence à se dire que le parapluie nucléaire américain pourrait avoir ses limites et il faut peut-être trouver d'autres solutions. Et donc on a progressivement une érosion du système de non-prolifération et en tout cas de la légitimité de ce système aux yeux de différents pays qui se perçoivent comme menacés et ça c'est extrêmement dangereux.
France Culture, ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Pierre Lévy, est-ce que l'idée de lancer le programme nucléaire militaire est une idée populaire en Ukraine? Et est-ce que l'Ukraine en aurait les moyens? C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui reste comme connaissance de l'époque soviétique? On dit souvent, ça sert à rien de bombarder les sites nucléaires iraniens parce que de toute façon, les Iraniens maintenant ont la connaissance nucléaire. C'est le même cas pour l'Ukraine ou pas du tout?
Moi, je connais mieux la Russie que l'Ukraine, donc je suis un peu embarrassé pour vous répondre sur les attentes de la population. Et c'est pas parce que d'ailleurs la population, il faudrait être une puissance nucléaire pour nous défendre que c'est forcément un bon choix. Parce que je crois que la vraie question est de savoir ce qui serait de nature à assurer la sécurité de l'Ukraine. Et là, la première garantie de sécurité pour l'Ukraine, je crois, c'est d'avoir en tous les cas une armée conventionnelle digne de ce nom. Et ils ont une expérience absolument remarquable du combat. Et donc, ça pose la question avant de discuter de grands schémas, ça pose la question de la poursuite de l'aide américaine et occidentale, européenne, à l'Ukraine. Je pense que la première garantie de sécurité, et c'est sur ce point-là qu'il faut absolument se concentrer. J'ajoute que s'engager dans une voie qui, d'un point de vue technique et financier, me semble totalement illusoire, voie nucléaire, c'est sans doute donner du grain à moudre à Moscou. Et c'est un jeu très dangereux parce que, on l'a bien vu au cours de ces années de guerre, il y a de multiples accusations russes contre l'Ukraine de développer un programme nucléaire clandestin ou d'utiliser des armes chimiques. Il y avait même eu une polémique à un moment qui n'avait pas grand sens quand les Ukrainiens ont utilisé des obus, des munitions à uranium qui ont un pouvoir de perforation beaucoup plus grand, mais c'est pas une arme nucléaire. Donc il y a beaucoup d'accusations russes, vous voyez, y compris aussi de développer des armes biologiques avec le soutien des Américains. Donc je pense que ça serait extrêmement dangereux pour les Ukrainiens de s'engager dans cette voie, et ça risquerait aussi de compliquer encore plus leurs relations avec leurs soutiens occidentaux. Parce que notre approche est une approche vraiment en termes de lutte contre la prolifération pour un gain militaire qui serait aujourd'hui très très problématique dans la situation actuelle.
Vous avez la même analyse, Marie Dumoulin. On ne peut pas se retrouver dans quelques années dans la situation dans laquelle, par exemple, était la France après la crise de Suez, qui a décidé d'aider Israël à avoir la bombe nucléaire pour protéger le pays. Cette époque est finie, elle est révolue.
J'aimerais croire qu'elle est révolue et qu'on peut revenir à un ordre international dans lequel il y a des traités qui encadrent la possession de l'arme nucléaire, où le traité de non-prolifération fonctionne, où il y a des accords entre la Russie, les États-Unis et les autres grands acteurs nucléaires sur des réductions des arsenaux. On est à ce stade, malheureusement, plus du tout dans cette configuration. Les traités de réduction et de contrôle des armements, et notamment des armements nucléaires, sont tous plus ou moins en déshérence. Il n'y a pas à ce stade de vrai dialogue sur ces sujets entre la Russie et les États-Unis, et a fortiori si on va au-delà de ces deux grands acteurs. Et comme je le disais un peu plus tôt, le traité de non-prolifération est extrêmement menacé. D'une part parce que des acteurs qui n'étaient pas reconnus par ce traité comme des États dotés se sont entre-temps dotés de l'arme nucléaire. D'autre part parce que la légitimité même de ce système où on a 5 États dotés, quelques États qui ont l'arme nucléaire sans être reconnus comme dotés et le reste qui n'a pas accès à cette arme, cette légitimité aujourd'hui est mise en question. Or, le traité de non-prolifération était sans doute une bien meilleure assurance vie pour l'ensemble du monde que ne l'est l'idée que chaque État pourrait se doter d'un petit arsenal nucléaire à toutes fins utiles.
Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Lévy ?
Oui, avec une nuance. Je crois qu'effectivement, il faut replacer cette problématique dans le contexte général d'affaiblissement de tout le cadre de sécurité. On a parlé du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, le traité sur les forces conventionnelles en Europe, et puis l'avenir de START, qui sera théoriquement devrait être discuté en 2026. Et les Russes ont toujours dit, nous on ne reprendra pas le dialogue sur la stabilité stratégique, qui est un point très important avec les États-Unis, tant que la crise ne sera pas résolue. C'est aussi l'intérêt quand même des Russes de le faire, puisqu'il y a la montée en puissance de l'arsenal nucléaire chinois, qui est une grande préoccupation. Donc le cadre général est véritablement extrêmement préoccupant. Et puis pour le reste, je crois qu'il faut quand même rappeler que pour l'instant, la Russie a manifesté son attachement au TNP. Il y a régulièrement, vous le savez, des conférences d'examen. Il y a des discussions au niveau des experts du P5, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, des États dotés qui ont continué de se tenir à bas bruit dans des pays tiers. Et la Russie a continué à réaffirmer son soutien à cette approche selon laquelle une guerre nucléaire ne doit pas être menée et ne peut donner lieu à une victoire.
Alors justement, on va écouter Vladimir Poutine sur la menace nucléaire qu'il a brandie régulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. C'est un son de France 24 qui date du 26 septembre 2024.
Nous nous réservons le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression contre la Russie et la Biélorussie en tant que membre de l'État de l'Union. Toutes ces questions ont été convenues avec la partie biélorusse et avec le président de la Biélorussie. Cela inclut les cas où l'ennemi, utilisant des armes conventionnelles, constitue une menace critique pour notre souveraineté.
Marie Dumoulin, comment analyser et comment juger la menace nucléaire brandie par la Russie en permanence depuis le début de l'invasion de l'Ukraine?
Il y a deux dimensions. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, en réalité, ce que fait Vladimir Poutine, c'est réitérer globalement la doctrine de dissuasion de la Russie. Les États détenteurs de l'arme nucléaire, s'ils ne disent pas de temps en temps qu'ils sont prêts à l'utiliser si leur existence est menacée, c'est pas très dissuasif. Donc le fait de dire si notre territoire est attaqué, y compris par des forces conventionnelles, mais qui représente une menace critique pour l'existence de l'État, alors nous n'excluons pas le recours à l'arme nucléaire. Ça, finalement, on est dans une logique de dissuasion relativement classique. Elle est étendue au territoire de la Biélorussie, ce qui est assez nouveau, mais on reste dans une logique de dissuasion. Ensuite, il y a eu, dans la rhétorique nucléaire russe, moins au niveau de Vladimir Poutine que dans les médias et puis par un certain nombre de responsables de rang moins élevé, une forme de gesticulation qui vise à prévenir à empêcher, plus exactement, les États occidentaux d'augmenter leur soutien à l'Ukraine. Donc c'est une autre forme de dissuasion, ça n'est plus dissuader une attaque contre la Russie, c'est mettre en scène un risque d'escalade pour intimider les pays occidentaux et les conduire à restreindre leur engagement aux côtés de l'Ukraine. Je crois que c'est vraiment les deux logiques de ces différentes déclarations qu'il y a pu y avoir sur le sujet nucléaire. Il faut voir quand même que la fréquence de ces références au risque d'escalade nucléaire a aussi pour effet de les normaliser et donc quelque part d'abaisser le seuil de tolérance à l'emploi de l'arme nucléaire et donc de normaliser l'idée que finalement il se pourrait qu'à un moment dans cette guerre la Russie utilise l'arme nucléaire, ce qui serait quand même sans précédent depuis 1945.
Pierre Lévy, sur ce sujet.
Il y a eu effectivement un nombre incalculable de menaces, de références à l'utilisation de l'arme nucléaire faites par la Russie, par le président Poutine. Et je me souviens en particulier quelques jours après le début de l'invasion, dans un de ses discours, il annonçait la mise en état d'alerte spéciale de combat des forces de dissuasion. Alors nous regardions à l'époque tous nos manuels pour savoir à quoi ça correspondait, mais on a vu effectivement des mouvements qui étaient inhabituels, en particulier la mise à la mer de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais pas d'éléments sur le terrain qui permettaient de penser qu'il y avait un changement opérationnel, par exemple rapprocher des ogives, des vecteurs, tout ça. Bon, et ça c'est quelque chose qu'on a suivi de très près, et la conclusion était relativement rassurante. Il y a un autre point à prendre en considération, c'est la révision de la doctrine nucléaire russe. Ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire, la doctrine nucléaire russe datait de 2020, était effectivement, comme l'a rappelé Marie Dumoulin, assez classique, en cas d'attaque conventionnelle mettant en cause la souveraineté ou l'intégrité de l'État. Et puis ensuite, il y a eu toute une série de déclarations, y compris par des experts, mais qui sont très extrémistes, comme Karaganov, quelqu'un que je fréquentais beaucoup à Moscou, qui était dans une logique vraiment extrêmement agressive en termes d'emploi. Mais là, il avait été démenti, en quelque sorte, dans les cercles officiels, qu'il n'avait pas suivi, et par les experts. Mais la révision de 2024 est très intéressante, parce que nous savions que les Russes travaillaient à son actualisation. Et puis, de manière assez inhabituelle, elle a été véritablement très publicisée. Et en particulier, il y a eu un discours du président Poutine le 25 septembre 2024, devant une réunion du Conseil de sécurité, dans lequel il a annoncé cette révision, avec en particulier un point très intéressant qui couvre l'hypothèse dans laquelle un État non nucléaire bénéficiant du soutien de puissances dotées, de puissances nucléaires, agresse la Russie. Donc, comme cas d'emploi de l'arme nucléaire. Donc ça, c'est clairement un message, un signalement à notre égard. Et donc, en principe, ça peut entraîner un abaissement du seuil d'emploi. Mais là aussi, il faut faire la part des choses et regarder exactement ce que ça signifie sur le terrain. Mais il est clair que dans cette crise, avec bien évidemment le passé et le mémorandum de Budapest qui est au centre de nos préoccupations, dans cette crise, l'ombre du nucléaire est là, à la fois avec la sanctuarisation agressive, les limites, la dissuasion finalement russe marche, parce que vous voyez bien les limites que nous nous posons en permanence dans l'aide à l'Ukraine.
On va reparler après des garanties de sécurité possibles pour l'Ukraine, mais je voudrais juste qu'on accorde quelques minutes, en fait, à la manière dont le Kazakhstan et la Biélorussie ont vécu leur mémorandum de Budapest.
Alors, de manière très très différente de l'Ukraine, pas forcément d'ailleurs parce qu'ils se sentaient, en tout cas pour le Kazakhstan, moins menacés par la Russie, parce que le Kazakhstan en réalité partage un certain nombre de caractéristiques avec l'Ukraine, des régions frontalières avec la Russie qui étaient en tout cas au moment de l'indépendance majoritairement peuplées par des populations russes, la présence de sites stratégiques pour la Russie, notamment le cosmodrome de Baïkonour. Dans le cas du Kazakhstan, ça se double d'une dimension symbolique du nucléaire et d'une dimension très identitaire, enfin très liée en fait à la construction de l'identité du Kazakhstan indépendant. Le Kazakhstan a été le site des expérimentations nucléaires pendant la période soviétique, a subi des dommages écologiques et sanitaires majeurs du fait de ces essais. Et cet élément a été l'un des creusets de la société civile et du mouvement qui, quelque part, a conduit à l'indépendance du Kazakhstan à la fin de la période soviétique. Et donc, il y a un rapport au nucléaire qui est très spécifique pour le Kazakhstan. Et le Kazakhstan indépendant, depuis son indépendance, depuis 1991, a été extrêmement actif sur les problématiques de lutte contre la prolifération nucléaire et de dénucléarisation. Il a notamment été à la manœuvre pour la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale. Donc c'est un pays pour lequel le fait de renoncer à l'arme nucléaire a été quelque part un élément central de son identité politique et de la manière dont il a conçu son rôle sur la scène internationale. Pour la Biélorussie, c'est très différent, du fait notamment de sa position géopolitique et de son rapport à la Russie. La Biélorussie a été un État neutre. La neutralité était inscrite dans sa constitution jusqu'en 2022. C'est une révision de sa constitution qui s'est opérée juste au moment de l'invasion de l'Ukraine qui a supprimé cette clause de neutralité. Et en réalité, jusqu'en 2022, enfin plus exactement jusqu'à l'élection présidentielle de 2020 qui a conduit Loukachenko à se maintenir au pouvoir grâce à l'appui de Moscou et au prix d'une répression extrêmement sanglante, jusque-là, la Biélorussie était très jalouse de sa souveraineté et notamment du fait que la Russie ne pouvait pas déployer de troupes et d'armes nucléaires sur son territoire. Cet élément-là change en 2022 et aujourd'hui, j'en parlais un peu plus tôt, la Russie dit avoir déployé des armes nucléaires sur le territoire de la Biélorussie, mais c'est bien la Russie qui contrôle ces armes nucléaires et ça constitue une limitation majeure sur la souveraineté de la Biélorussie.
Pierre Lévy, tout à l'heure, vous parliez de la valeur, ou plutôt de la non-valeur, de l'accord de la Russie de Vladimir Poutine. On parlait des accords de Minsk, et puis bon, avant c'était celle de la Russie en parlant du mémorandum de Budapest. Qu'est-ce qui pourrait faire, selon vous, qu'un futur accord de cessez-le-feu ou un futur accord de paix soit davantage respecté par la Russie? Est-ce qu'il faut exclure la possibilité que la Russie, un jour, puisse respecter sa signature d'un accord?
Je crois que malheureusement, il faut en revenir à des considérations très brutales et instaurer un rapport de force. Je crois que c'est ainsi qu'on peut arriver à quelque chose. Si on regarde rapidement le passé, vous apercevez qu'à chaque fois que la Russie a avancé, c'est parce qu'elle avait une analyse assez fine du rapport de force avec ceux qui étaient en face. Vous vous souvenez, la Géorgie en 2008, au mois d'août 2008, juste avant, il y avait eu le sommet de Bucarest avec le compromis sur la perspective d'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN.
Compromis imposé par le double veto de la France,
voilà,
et de l'Allemagne, qui ne voulait pas l'entrée. Oui.
Voilà, ne voulait pas, les Américains le voulaient. Bon. Et puis ensuite, après cette guerre en Géorgie, il y a eu une réaction, me semble-t-il, plutôt de la part des Européens et de l'Occident en général. Et ça a été la même chose quand on regarde le passage à l'acte en février 2022, à mon avis d'un projet qui existait depuis très très longtemps dans la tête du président Poutine.
Et depuis combien de temps ?
J'ai difficile de faire remonter tout cela à une date précise, mais il y a des références, je pense en particulier à, en 2007, le fameux discours de la conférence à Munich, la conférence sur la sécurité, parce que fondamentalement, c'est pas uniquement l'Ukraine qui est en jeu, c'est pas une problématique territoriale. Les Russes d'ailleurs le répètent, quel besoin avons-nous de quelques kilomètres carrés en plus dans ce pays qui est le plus grand au monde? C'est bien au-delà. C'est un conflit contre l'Occident, c'est un conflit pour un nouvel ordre mondial, c'est un conflit en quelque sorte civilisationnel dans la bouche du président Poutine. Et je pense, et ça c'est quelque chose que l'on a perçu à Moscou nettement, qu'un des éléments déclencheurs a été la réforme constitutionnelle en Russie, qui a permis au président Poutine de se représenter à nouveau en 2024, ce qu'on a appelé l'annulation du compteur, se représenter en 2024 et pouvoir rester jusqu'en 2036. Donc je pense qu'il s'est dit, voilà, maintenant je travaille pour l'histoire, pour laisser ma trace dans l'histoire russe, un peu dans la continuité de Pierre Ier, d'autres tsars, et je vais régler la question ukrainienne. Donc fondamentalement, il faut arriver à instaurer un rapport de force pour dissuader la Russie de recommencer dans une situation qui n'est bien évidemment pas satisfaisante, mais qu'il faut arriver à geler et à préserver une Ukraine encore souveraine dans des frontières qui, pour l'instant, restent indéfinies.
Alors concrètement, Marie Dumoulin, bon, le mémorandum de Budapest a brûlé, les accords de Minsk ont brûlé, l'article 5 de l'OTAN est extrêmement affaibli depuis la réélection de Donald Trump, et il était déjà pendant le premier mandat de Donald Trump, et le nucléaire, c'est très compliqué parce que personne va vouloir que l'Ukraine se dote de l'arme nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui reste comme possibilité de garantie de sécurité à l'Ukraine ?
Je crois que Pierre Lévy a très bien décrit ce qui était en jeu. L'objectif, c'est avant tout de préserver une Ukraine viable, souveraine et capable de se défendre. Capable de se défendre, ça signifie que la première des garanties de la sécurité de l'Ukraine, c'est sa propre capacité à défendre son territoire. Ça signifie donc qu'il faut investir massivement dans les capacités de production en Ukraine, mais aussi poursuivre l'assistance militaire à l'Ukraine pour qu'elle ait un outil de défense suffisant pour se défendre. Le deuxième élément, je pense, c'est aussi de faire en sorte que la Russie ne puisse pas réattaquer. Et ça signifie d'une part contraindre la capacité de la Russie à reconstituer son propre outil de défense. Et là, l'outil des sanctions sera fondamental pour l'avenir parce que c'est un des éléments qui augmente le coût pour la Russie de son réarmement, mais aussi limite son accès à certaines technologies, etc. Donc ça, c'est un des éléments. Mais aussi, il faut avoir la capacité d'identifier des préparatifs russes à une nouvelle agression. Et ça signifie investir de notre côté dans nos capacités de renseignement et d'observation sur ce que fait la Russie. Mais aussi, peut-être, à un moment, avoir une discussion avec la Russie et avec l'Ukraine sur la manière d'encadrer un cessez-le-feu, savoir où pourront être déployées les troupes, où pourront être déployés certains types d'équipements, pour là encore pouvoir voir venir des modifications de la posture russe suffisamment en amont pour pouvoir y réagir. On est encore très loin de tout ça. Et je crois que Pierre Lévy avait raison de dire que si on veut arriver à ce type de discussion, on ne peut pas échapper à un rapport de force parce que c'est ce qui permettra d'imposer à la Russie des limitations que spontanément, elle n'acceptera pas.
Sans les États-Unis, ce rapport de force sera possible ?
Il va être compliqué.
Pour suivre les développements de Marie Dumoulin, il faut bien voir qu'actuellement, il y a, me semble-t-il, une très grande confusion dans la discussion et les attentes, c'est-à-dire il y a le cessez-le-feu ou la trêve, il y a ce qui serait un accord de paix, et puis il y a une troisième dimension qui concerne le traitement des causes profondes du conflit. Je reprends le langage russe.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est les propos réguliers de Sergueï Lavrov ou du président Poutine ou d'autres. Ça veut dire que, au-delà de la cessation de la guerre, des hostilités, ce qui ne signifie pas la cessation de la confrontation avec l'Occident, c'est une différence, je crois, majeure à prendre en compte, se posera la question, une fois que la situation sera, j'ose pas dire, stabilisée, du cadre plus général de la sécurité européenne et de la sécurité dans le monde. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que, est-ce qu'on sera capable de construire ou de reconstruire un ordre de sécurité. Certains emploient le terme d'architecture. Moi, je suis plus réservé parce que je trouve que c'est une approche extrêmement ambitieuse, mais en tous les cas, des mécanismes minimaux de déconfliction, de dialogue, comme ceux qui existaient au moment de la guerre froide. Mais c'est un point qui est vraiment extrêmement important. Et là, les perspectives sont malheureusement également très sombres. Parce que si on fait référence aux demandes russes, moi, j'ai toujours en tête ce qui constitue leur position, c'est-à-dire la mise sur la table en décembre 2021 de deux projets de traité, l'un avec les États-Unis et l'un avec l'OTAN, avec une demande formelle de garantie de sécurité contraignante, qui revenait de fait à, en quelque sorte, rembobiner l'histoire et à revenir à la situation de l'OTAN avant 1997, avant l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Et les Russes continuent d'y faire référence. Alors ensuite, il y avait eu des débats, on avait essayé de discuter avec les Russes, en particulier à l'OTAN. À mon sens, c'était à l'époque une démarche purement théâtrale, cosmétique, de manière à justifier l'intervention qu'ils avaient déjà en projet. Et d'ailleurs, les Russes ne sont pas privés de dire « Regardez une fois de plus, on ne nous écoute pas, on ne veut pas prendre en considération nos demandes. » Et finalement, on avait bien raison d'agir ainsi. On n'en parle pas tellement parce qu'on se concentre aujourd'hui sur l'immédiateté des changements de position, des images qui peuvent paraître séduisantes. Mais derrière tout ça, il y a cet enjeu qui est un enjeu absolument majeur pour la sécurité de l'Europe et l'ordre du monde.
Marie Dumoulin, c'est vrai que l'Ukraine, c'est aussi le front d'une opposition civilisationnelle, comme le disait Pierre Lévy, entre la Russie et ses alliés du Sud global et l'Occident et la démocratie. C'est sans doute aussi pour ça que on a beaucoup de mal à imaginer des garanties de sécurité qui conviennent en fait à tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Europe, si elle utilise le rapport de force, ce rapport de force sera suffisant pour confronter ce groupe d'en face constitué de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord, parfois même de la Turquie?
Je crois qu'il faut être très prudent quand on emploie cette idée d'affrontement civilisationnel. C'est la manière dont les Russes le conceptualisent, ça n'est certainement pas la manière dont nous devons le conceptualiser. Et je crois que fondamentalement, ce qui est en jeu en Ukraine et qui peut parler à la plupart des pays du monde, c'est la question de la souveraineté. Et c'est exactement ce qui est en train de se jouer dans les discussions entre les États-Unis et la Russie. C'est de savoir si, in fine, un État comme l'Ukraine peut avoir des choix à faire concernant sa propre destinée ou si elle est vouée à rester l'objet de discussions entre les grands de ce monde et à accepter le résultat de ces discussions. Et c'est très exactement là que les Européens ont intérêt à être aux côtés de l'Ukraine, parce que fondamentalement, défendre la souveraineté de l'Ukraine, c'est aussi défendre leur propre souveraineté. Le risque qu'il y a aujourd'hui, c'est que fondamentalement, la Russie voit la sécurité européenne comme quelque chose qui doit être réglé entre grandes puissances, entre elle et Washington. C'est un peu, je le crains, la manière dont Donald Trump voit les choses également. Et l'enjeu pour les Européens est de se réintégrer dans cette discussion et de faire valoir le fait qu'ils ont des intérêts de sécurité propres, qu'ils ont les moyens de défendre leur sécurité, ce qui est déjà un tout petit peu plus compliqué, et que parce qu'ils ont les moyens de défendre leur propre sécurité, ils doivent aussi avoir leur mot à dire sur cet ordre de sécurité européen. On en est très loin, parce qu'on a affaire à des dirigeants à Washington et à Moscou qui ne le voient pas comme ça, et parce que traditionnellement, quelque part, la Russie a toujours vu la sécurité européenne comme quelque chose qui se jouait entre elle et les États-Unis et entre elle et l'OTAN. Si l'OTAN change de nature parce que l'administration américaine en a une vision différente, ça peut être l'opportunité pour les Européens de réaffirmer que l'OTAN est aussi leur alliance et de se réinsérer dans cette conversation. Ça peut être aussi un risque pour leur sécurité et quelque part aussi pour leur souveraineté.
Alors je retiendrai de vos propos le mot de souveraineté, parce que c'est vraiment le mot de l'époque. C'est le mot de l'époque pour l'Ukraine, mais c'est aussi le mot de l'époque pour les pays européens, et pas seulement au niveau militaire, mais au niveau technologique, économique. Malheureusement, l'heure a sonné de la fin de cet épisode qui était consacré au mémorandum de Budapest. Merci beaucoup Marie Dumoulin, et merci à vous aussi Pierre Lévy. C'était Les Grands Accords Internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec à la technique aujourd'hui Jean-Guy Lamège, attaché de production Théa Corler. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.